Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Édition spéciale sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est une Amérique divisée qui se prononce dans un vote crucial pour le contrôle du Congrès américain.
Le nombre qui vont voter dans cette élection sera très important. Vraiment, cette élection a une prise sur le public américain.
Au Cameroun, le président Paul Biya a prêté serment pour la 7e fois dans un climat de tension dans les régions anglophones.
Il y a trois grands défis. Il y a un défi sécuritaire, il y a un défi social, il y a un défi économique. Le est déterminé par un défi central, qui est le défi de la démocratie.
Madagascar à la veille d'une présidentielle pour stabiliser la grande île. Washington octroie au Sénégal 319 milliards de francs CFA dans l'actualité éco. Et bien sûr, ne ratez pas les sports avec le PSG qui joue son avenir européen en Ligue des Champions ce soir. Mais tout d'abord, le journal. Et des élections cruciales se tiennent aujourd'hui aux États-Unis. La participation s'annonce excellente. Déjà, plus de 36 millions de bulletins ont été déposés par procuration ou anticipation. Allons dans l'État de Virginie, dans la ville d'Alexandria, à quelques kilomètres de Washington. Notre envoyé spécial, John Lyndon, se trouve sur place. Bonsoir, John.
Bonsoir, Aïssa. Eh bien, nous nous trouvons au bureau D. Williams Ramsey Center. Il s'agit en réalité d'une école qui a été transformée en bureau de vote. Tout se passe bien jusqu'ici dans ce centre et même la pluie qui s'abat depuis ce matin dans la ville n'a pas pu empêcher aux citoyens américains, y compris votre humble serviteur, de remplir leurs devoirs civiques. C'est vrai, à la mi-journée, au moment où on vous parle, pas de longue file d'attente parce qu'évidemment, vous le disiez tantôt, beaucoup de gens ont voté avant et il y a beaucoup de bureaux de vote aussi. Ça fait que les gens se sont préparés pour venir voter.
Et alors, comment se fonctionne ce scrutin, John?
Alors, le rituel, il faut le dire, Aïssa, est simple. Vous entrez dans une vaste salle, là où nous trouvons. C'est une salle, un gymnase, on va dire. Vous présentez votre pièce d'identité. On vous remet ensuite un bulletin de vote, ou plutôt un large papier qui contient à la fois les noms et les questions d'intérêt général, objet du vote de ce mardi. Et une fois que vous avez coché, vous devez cocher une case qui représente le mieux votre position sur un sujet donné ou alors le candidat de votre choix. Et une fois que cela est fait, votre bulletin est introduit dans une machine électronique qui valide immédiatement votre vote. Et si tout est normal, un drapeau américain s'affiche sur la machine électronique, signe que votre vote a bien été prise en compte.
Alors, vous êtes à Alexandria. Quels sont les grands enjeux dans l'État de Virginie?
Alors, il faut peut-être encore rappeler ici, Raïssa, que ces élections de mi-mandat mettent en jeu 36 postes de gouverneur, 435 sièges de membres de la Chambre des représentants et 35 sièges de sénateurs. Parmi ces 35 sièges, il y a donc celui du démocrate Tim Kaine, dont vous vous souvenez, était le colistier d'Hillary Clinton dans la dernière présidentielle. Son poste de sénateur est en jeu. On notera par ailleurs que d'autres sujets, comme l'exemption sur la propriété, la taxe sur la propriété foncière pour les vétérans ou les épouses des militaires décédés, ou encore même le découpage administratif qui influence souvent les votes comme celui-ci sont également des enjeux majeurs ici dans l'État de Virginie où on se trouvera ici.
Merci beaucoup John, on vous retrouvera dans les prochaines éditions. Et donc, quels sont les enjeux pour les républicains et les démocrates? Morgane Guerriec a posé la question à Jen Caesar, professeur à l'Université de Virginie.
Pour les républicains, la chose la plus importante est de maintenir le contrôle du Congrès, du moins d'une partie du Congrès, le Sénat ou la Chambre des représentants.
Si le camp républicain était amené à perdre du terrain, ça voudrait dire quoi pour eux concrètement?
Les résultats des sondages jusqu'à maintenant qui suggèrent que les républicains vont maintenir le contrôle du Sénat, alors que les républicains vont probablement perdre la Chambre des représentants. Donc le résultat sera mixte. Les républicains.
Il y a aussi des enjeux pour le président.
Et on peut dire que le président a essayé de nationaliser les élections. Il a dit que c'est une élection qui va tourner sur lui-même. Il s'agit de Donald Trump. Est-ce qu'il est bon ou non? Pour les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants, quelques-uns parlent d'un processus d'impeachment, alors que je doute que ça va continuer. Et ils vont aussi probablement questionner, interroger les membres de l'administration.
Quels sont les enjeux pour les démocrates aujourd'hui?
Démontrer que le président ne contrôle pas et que les républicains n'auront plus une majorité ferme. Si les démocrates réussissent à prendre la Chambre des représentants et si les démocrates contrôlent plus de gouverneurs, ça va montrer que le pays est divisé entre deux partis politiques et que les démocrates auront une voix sur le plan national.
Et au niveau législatif, ça leur donnerait quel poids?
Peu, parce que le Sénat peut bloquer tout ce que la Chambre des représentants vote, mais il sera difficile pour les républicains de faire des choses sans la Chambre des représentants. Donc, si c'est le résultat, on aura une période où il y aura peu de législation pour les 2 ans qui viennent.
Les taux de participation sur les midterms sont généralement assez bas, n'est-ce pas?
Normalement, c'est 30% moins que les élections présidentielles, mais c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant avec les gens qui ont déjà voté, que le nombre qui vont voter dans cette élection sera très important. Vraiment, cette élection a une prise sur le public américain.
Et comment l'expliquer, ça?
Probablement, c'est l'effet du président. Il est tellement important, si vous voulez, dans le sens positif pour les républicains et négatif pour les démocrates.
C'était James Caesar, le professeur à l'Université de Virginie, pour clore cette édition spéciale sur les élections de mi-mandat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et au Cameroun, Paul Biya a prêté serment pour un 7e mandat à la présidence. Fait notable dans son discours d'investiture, le chef de l'État a reconnu les frustrations et les aspirations en zone anglophone, là même où 82 personnes avaient été enlevées hier. Il a également lancé un appel aux sécessionnistes anglophones à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le sujet de la crise anglophone est revenu plus d'une fois dans le discours d'investiture du président Paul Biya. Avant de lancer un appel aux sécessionnistes à déposer les armes, le président élu a promis, je cite, « aux entrepreneurs de la guerre qu'ils se heurteront à la rigueur de la loi et la détermination des forces de défense et de sécurité ». En prêtant serment ce jour, Paul Biya a maintenu sa grille de lecture sur la crise anglophone qui, selon lui, a été orchestrée par, je cite, « des forces négatives ». Auteur d'actes de violence terroriste, ayant entraîné particulièrement des jeunes dans une aventure sans lendemain, fin de citation. Sur un ton plus conciliant, le président au pouvoir depuis 36 ans a reconnu les frustrations, les insatisfactions et les aspirations de la grande majorité des Camerounais originaires du Nord et du Sud-Ouest anglophone. À ces derniers, il a promis, dans les meilleurs délais possibles, plus de transferts de compétences, notamment aux collectivités territoriales. Le président Biya a en outre pris un engagement ferme à faire revenir le calme et la sérénité dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et 24 heures après la vague d'enlèvement dans la région de Bamenda en zone anglophone, Chris Anou, le secrétaire à la communication de l'autoproclamé Ambazonie, dit que ses forces ont sauvé les 80 élèves. Ils promettent de les libérer sous peu. Le point avec Bagassi Koura.
Our restoration forces stormed the vicinity where the children were being kept.
Nos forces de restauration ont pris d'assaut l'endroit où les enfants étaient gardés et ils les ont libérés. Donc en ce moment, ils sont encore entre nos mains. Nous les interviewons pour savoir ce qui s'est réellement passé.
Our forces did not abduct the children.
Nos forces ne les ont pas kidnappés. Les forces camerounaises se sont déguisées comme nos forces. Il y a même un qui a porté une fausse moustache pour paraître comme un de nos soldats et ils ont kidnappé les les enfants. S'ils n'ont pas été libérés, ce sera fait d'ici tôt demain matin.
Et au Mali, près de 2000 élèves maliens sont interdits d'école depuis une semaine au nord-est de Bamako. À cause de menaces de présumés djihadistes, ils exigent l'instauration d'un enseignement exclusivement religieux. Selon un enseignant de Toubakoro, près de la localité de Banenda, les djihadistes armés ont demandé de fermer toutes les écoles où le français est enseigné et désormais d'enseigner le Coran. Soulignons qu'ils ont clairement menacé de punir ceux qui ne vont pas respecter la nouvelle loi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Sénégal reçoit 319 milliards de francs CFA des États-Unis pour le second compact du Millennium Challenge Corporation qui va s'articuler autour de trois projets: la modernisation et le renforcement du réseau de la Société nationale d'électricité, l'accès à l'électricité en zone rurale et l'amélioration du cadre légal et des capacités des acteurs. Le gouvernement sénégalais avait achevé un premier compact axé sur les secteurs de l'agriculture et des transports en septembre 2015. La croissance économique du Mali devait ralentir à 5% en 2018 contre 5,3% en 2017, d'après un communiqué du Fonds monétaire international. La mise en œuvre du programme économique et financier au cours du premier semestre 2018 a été globalement satisfaisante. Le FMI a d'autre part recommandé aux autorités maliennes d'accroître leurs efforts en matière de gestion budgétaire afin d'améliorer l'administration fiscale, l'efficacité de la taxation du secteur minier et des recettes sur les produits pétroliers, ainsi que la gestion des finances publiques. Enfin, la France accorde 34 millions de dollars à la Gambie pour financer la transition. Ces fonds devraient contribuer à la mise en œuvre d'un plan national de stabilisation en finançant des projets de développement et des projets sociaux. 5,7 millions de dollars devraient être accordés au titre d'appui budgétaire, tandis que près de 22,8 millions de dollars seront alloués à des projets d'adduction d'eau. Enfin, un dernier montant de 5,7 millions de dollars devrait permettre de financer des projets de développement dans le secteur agricole.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Alors Benatia et Boufal de retour avec le Maroc.
Le Maroc enregistre trois retours dans son groupe avant d'affronter le Cameroun pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il s'agit de Mehdi Benatia, Sofiane Boufal et Amin Harit. Absent des listes depuis la Coupe du Monde Russie 2019, le capitaine Benatia revient donc en sélection avec ses 58 caps. Boufal lui est récompensé de ses belles prestations avec le Celta Vigo, tandis que Harit revient après avoir purgé sa suspension pour les cas de conduite. Les Lions de l'Atlas n'ont pas encore validé leur ticket. En plus du Cameroun, le Maroc affrontera la Tunisie en amicale le 20 novembre.
Le Burkina Faso fera face à l'Angola sans Dabo.
Oui, le milieu de terrain de la Fiorentina ne figure pas dans la liste des 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte. En dehors de l'absence de Brian Dabo, le reste c'est du classique avec Hervé Kofi Kwaku, Charles Kabouré et les frères Traoré. En seconde position dans son groupe avec 7 points, le Burkina Faso a besoin d'une victoire pour valider sa qualification.
Le Sénégal enregistre trois forfaits pour son match, Yacouba, contre la Guinée équatoriale.
Le gardien Abdoulaye Diallo, le latéral gauche Racine Koli et l'attaquant Moussa Konaté ont déclaré forfait, d'après la presse locale. Pour les remplacer, le sélectionneur Aliou Cissé a fait appel au gardien de l'AS Monaco Seydou Si, au latéral gauche des camps Adama Mbeng et à l'attaquant de Metz Habib Diallo. Auteur de 11 buts en 13 matchs de Ligue 2 cette saison, ce dernier fête sa première convocation. Pour rappel, le Sénégal est déjà qualifié pour Cameroun 2019.
Et pour finir, en Europe, le PSG joue son avenir européen en Ligue des Champions ce soir.
Deux semaines après le nul miraculeux, 2-2 arraché au Parc des Princes grâce à un exploit d'Angel Di Maria. Dans le temps additionnel, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus droit à l'erreur. En cas de contre-performance à Naples, Paris, troisième de son groupe avec 4 points, derrière Naples et Liverpool, aura quasiment dit adieu à la Ligue des Champions cette saison. Toujours en Ligue des Champions, vague de forfait pour l'Atlético Madrid, le milieu offensif Thomas Lemar souffre d'une blessure musculaire et sera forfait ce soir contre Dortmund. Le club colchonero sera aussi privé de Diego Godin et de Stefan Savic en défense, de Koke et de Diego Costa. À suivre aussi Inter Milan Barcelone, Tottenham PSV.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Raissa Girondin pour vous présenter les dossiers du jour. Au Cameroun, Paul Biya a prêté serment pour un septième mandat dans un contexte national marqué par la crise anglophone. Mais que peut faire encore Paul Biya qu'il n'a pas réalisé en 36 ans de pouvoir ? Nani Talani a joint Yaoundé Hilaire Kanga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Bien, sur le plan national, il y a trois grands défis, il semble. Il y a un défi sécuritaire, il y a un défi social et un défi économique. Ceci, à la réalité, est déterminé par un défi central qui est le défi de la démocratie, on peut parler en ces termes. Il va falloir pour M. Biya-Paul adresser de manière concrète la crise dans les régions anglophones. Et on peut sur ce sujet-là dire que son discours de prise de fonction a donné dans le type de vocabulaire qu'il a utilisé une indication sur le changement de paradigme de la part de M. Biya. Parce que dans tout le discours, on n'a pas pu entendre le mot terroriste. Il y a eu plutôt le mot sécessionniste et autres qui est apparu. Cela veut dire qu'il se met dans une prédisposition de dialogue. Dès l'instant où le dialogue ne peut pas se faire avec des terroristes. Sur le plan social, il faut noter que la crise sociale est grave. C'est d'ailleurs pour ça que les meetings au cours des campagnes ont été très populaires contre lui, M. Biya-Paul. Et sur le plan économique, on se retrouve avec une situation extrêmement grave qui est celle où le Cameroun est sous ajustement pratiquement avec le Fonds monétaire international. Et sur le plan politique, il vient d'être déclaré élu dans un contexte de contestation grave, dont il y a une crise de légitimité et donc de gouvernance. Cela induit ce qu'il fera pour essayer d'organiser la transition, parce qu'on est convaincu à 85 ans qu'il aura beaucoup de peine à finir le mandat.
Est-ce que ça sera possible de réconcilier ce pays divisé avec le conflit qui secoue la zone anglophone?
Mais ça ne va pas être facile. Et ce sera même d'ailleurs quasi impossible sous M. Biya-Paul, puisqu'il ne fait rien de manière fondamentale pour essayer de mettre en difficulté ceux qui, dans son propre camp, exacerbent les divisions. Il ne fait rien parce que le tribalisme est en train de monter d'un niveau très élevé aujourd'hui au Cameroun. Le régionalisme est en train de s'exacerber. Et malheureusement, on ne voit pas une tendance au niveau du leadership national à mettre un terme à ce mois, à cette fléau. Il y a plutôt comme une volonté d'exacerber cette fléau-là pour mieux se maintenir au pouvoir, dont le challenge va être très très difficile si M. Biya-Paul ne change pas de cap.
Qu'est-ce que Paul Biya peut encore faire qu'il n'a pas fait en 36 ans au pouvoir?
Il est évident que M. Biya ne peut plus rien faire. On ne peut pas, à cet âge-là, après 36 ans, avoir un discours novateur. Il semble que c'est plus un mandat de maintien et d'organisation de la manière dont son équipe va pouvoir assurer le relais après lui. Parce qu'il n'y a aucune innovation possible qu'il puisse apporter aujourd'hui. Il n'est pas l'homme de la situation, mais il est l'homme qui peut permettre une transition politique crédible au Cameroun, si jamais il peut projeter dans l'avenir et dans la postérité.
Comment est-ce que vous prévoyez le futur du Cameroun avec ce septième mandat de Paul Biya?
Malheureusement, mesdames, écoutez, je suis très, très sceptique quant à la stabilité du Cameroun au cours de ce mandat.
C'était Hilaire Kanga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. On se retrouve tout à l'heure dans l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, à 18h05, temps universel. Paul Biya a prêté serment pour un septième mandat à la présidence du Cameroun, en pleine tourmente de la crise anglophone et des contestations post-électorales de l'opposition. Il a assuré s'être attentivement penché sur les frustrations et aspirations des Camerounais. Après 36 ans au pouvoir, quel changement peut-il apporter et quels sont les défis à relever? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le Forum sur la paix et la sécurité s'est tenu cette semaine à Dakar, au Sénégal, à un moment où plusieurs États de la région sont éprouvés par des attaques terroristes. C'est le cas des pays du Sahel, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Comment une telle rencontre sur la sécurité peut aller au-delà des discours pour proposer des solutions concrètes? Baga Sikoura a posé la question à Babacar Samb, l'ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte.
On a bien développé le rôle du développement. Le développement ne peut avoir lieu que si la sécurité est assurée. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, bien entendu, le fait que le ministre de la Défense de la France y ait participé, cela montre quand même l'intérêt qu'on donne donc à la coopération entre l'Afrique et la France pour assurer la sécurité et donc le développement au niveau de la région soudano-sahélienne, la bande donc soudano-sahélienne et surtout, on sait bien, les pays qui sont concernés. Mais les Africains eux-mêmes, effectivement, ils ont beaucoup insisté pour, comme le président burundais, l'ancien président, qui dit qu'il faut absolument que les Africains prennent en charge leur propre sécurité et que contribuent également à l'encadrement de la jeunesse pour qu'il y ait moins de risques de voir ces jeunes entrer dans des bandes un peu djihadistes ou terroristes dans la sous-région.
De par le passé, on a vu quand il y avait des rébellions, notamment au Libéria, en Sierra Leone, et aussi des coups d'État, on a vu que les États de la CEDEAO parlaient d'une même voix, avaient une force qu'on appelait ECOMOG. Mais aujourd'hui, un pays comme le Burkina Faso ou même le Mali est attaqué chaque jour et la communauté ne réagit pas vraiment.
Non, ça c'est vrai qu'au niveau de l'ECOMOG, ça c'était la CEDEAO, mais il y a le G5, donc qui existe. Je crois que c'est une concertation qui est mise en place depuis presque 7-8 mois.
Le G5, dont le Sénégal ne fait pas partie, dont le Ghana ne fait pas partie.
Voilà.
Le Ghana ne fait pas partie, le Bénin n'en fait pas partie. Du coup, on a l'impression que les autres pays regardent les pays pauvres du Sahel se défendre seuls.
Ouais. Un pays, par exemple, comme le Sénégal, le Ghana, on estime qu'ils sont loin du théâtre réel, donc des djihadistes et des bandes terroristes dans le Sahel. Mais je crois qu'il faut absolument élargir ce cadre de concertation pour intégrer des pays qui ont de l'expérience dans les casques bleus comme le Sénégal, qui a envoyé des troupes un peu partout. Je crois que son armée, effectivement, pourrait contribuer plus efficacement dans l'intervention contre des attaques inopinées et incontrôlables qui viennent des bandes organisées dans le Sahel.
Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Madagascar, un pays où 91% de la population vit avec moins de 2 dollars américains par jour, un électeur, Joseph Rodolphe Solo, explique selon lui comment le nouveau gouvernement qui doit diriger l'île après les élections du 7 novembre devrait améliorer l'économie nationale. Les précisions avec Irénée Amanombo.
Quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle malgache, Joseph Rodolphe Solo souhaite qu'il crée des emplois dans un pays déchiré par la pauvreté malgré ses ressources. Solo n'a que 20 ans. En journée, il effectue de petits travaux dans le secteur de la construction et travaille comme cuisinier le soir afin de pouvoir joindre les deux bouts.
Je viens ici tous les matins et le soir je vais à d'autres jobs puisque je ne gagne pas assez d'argent en tant que constructeur. Le coût de la vie augmente constamment.
Comme beaucoup d'autres malgaches, il veut d'un leader capable de changer la vie des jeunes. Durant la campagne, les trois principaux candidats, R. Rajomanapiam et ses deux principaux concurrents, Marc Ravalomanan et Ange Radjoel, ont parcouru le pays avec des promesses électorales ambitieuses. Bien que la stabilité politique relative observée depuis les élections de 2013 ait permis une reprise de l'économie, la majorité des 25 millions d'habitants de l'île vivent en dessous du seuil de pauvreté. Clémence Oliga est une jeune fille de 18 ans sans emploi.
J'ai dû arrêter d'aller à l'école pour me trouver un travail à faire parce que mes parents ne pouvaient plus me payer les frais de scolarité.
Le vainqueur de la présidentielle a donc l'obligation de répondre, entre autres, aux préoccupations de la jeunesse avec des actes concrets, indique Joseph Rodolphe Solo.
La vie est souvent plus difficile avec chaque nouveau président, c'est pourquoi je vais voter, espérant que nous aurons non seulement un bon président, mais surtout quelqu'un avec une vision pour les jeunes.
33 autres candidats sont en liste pour cette présidentielle malgache, mais très peu parmi eux ont de l'influence ou encore de l'argent en vue de conquérir l'électorat de l'île sur la base d'un programme crédible capable de sortir le pays de son gouffre économique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ils étaient tant attendus en République centrafricaine. Ils y ont enfin posé leurs valises. Il s'agit de l'équipe du cinéma numérique ambulant, qui est un réseau international d'unités mobiles de projection de cinéma numérique présente en Afrique et en Europe. Pascal Serra nous emmène à leur rencontre lors de leur première installation à Bangui.
Créé en Europe il y a 18 ans, le cinéma numérique ambulant compte désormais une nouvelle unité de projection en République centrafricaine. Ce pays s'ajoute donc à une liste d'environ une dizaine de pays africains tels que le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Cameroun. Stéphanie Dangmo est présidente du CNA au Cameroun.
Vu la situation de la Centrafrique avec la crise qui perdure, nous y étions plutôt favorables parce que nous préférons aller quand même dans des zones où les gens ont vraiment le plus besoin de ce que nous leur apportons. Parce que le cinéma apporte également un appui psychosocial à des personnes qui ont été traumatisées, qui ont été longtemps en crise. C'est pour ça qu'on a choisi aussi la Centrafrique parce qu'il y avait un énorme besoin.
Lancé en 2001 en Afrique, la particularité du cinéma numérique ambulant est de s'installer dans des régions enclavées ou encore de faire bénéficier aux populations défavorisées habitant dans des zones reculées la diffusion de films, de documentaires et des contenus à caractère pédagogique ou de sensibilisation. Dans un pays comme la République centrafricaine, où environ 80% du territoire est occupé par des groupes armés, le travail des équipes s'avère délicat, mais pas impossible. Serge Mbilika est le président du CNA en RCA.
Je crois que la démarche de cinéma numérique ambulant, c'est à peu près une démarche un peu participative. C'est-à-dire, quand on veut organiser une projection, on fait de manière à ce que tout le monde soit impliqué. C'est-à-dire, on ne vient pas juste voilà, avec le matériel, du coup on arrive quelque part, on déballe, on installe et puis après qu'on commence à projeter. Non, il y a une phase de travail, il y a un travail qui se fait d'abord en amont, où on va, on rencontre toutes les autorités locales, on rencontre les personnes qui peuvent nous aider à ce que cette campagne, cette projection réussisse. Et donc il y a ce travail qui doit être fait. Donc si on arrive par exemple dans une zone où c'est occupé par exemple par les groupes armés, il va falloir qu'on parte, qu'on dialogue avec ces groupes armés, qu'on leur explique l'objet de notre présence là et qu'on demande également leur adhésion à cette séance de projection au fait. Et donc ailleurs ça a marché, ailleurs les gens arrivent vraiment à convaincre et puis à ce que les groupes armés, les rebelles puissent accepter à ce que ce travail là se fait.
Depuis leur début, les projections organisées par le CNA rencontrent un fort succès au sein de la population centrafricaine. Dans ce pays où les moyens de divertissement sont assez restreints et dans lequel n'existe pas de salle de cinéma, la présence du cinéma numérique est l'un des uniques moyens de joindre l'utile à l'agréable.
Et le récit était de Saloua Jafari.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique.
faire ça, c'est bien en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Joselle Morissin à la mise en onde, Justin Twaits à la console, Raissa à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.